Bonjour et soyez les bienvenus à l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du premier jour de juin 2018. Hélène Denis avec vous. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Le mois de juin.
Ah,
déjà.
Quel beau. On se rapproche de l'hiver. Moi, je suis content.
Oh.
Le premier jour. Non, c'est une blague. C'est une blague.
Oui, une blague plate. Mais on vous pardonne tout à vous.
Ah non,
ou presque.
Quand même pas. Oui.
Alors, est-ce qu'il y a des journées internationales?
Oh, vous avez le choix. Soit vous célébrez la Journée mondiale du lait, L-A-I-T.
Ah oui.
Soit vous célébrez la Journée mondiale des parents. Mm-hmm. Ou la Journée mondiale du donut. Du bang.
Ah oui?
Oui.
Alors, en buvant un verre de lait
avec
en compagnie de nos parents.
Ben voilà.
Bon.
Là, vous célébrez les trois. C'est les trois journées du mondial du 1er juin.
Ah, la journée du donut.
Ah oui.
Qui a instauré ça? Est-ce que vous le savez?
J'ai failli mettre l'information sur ma feuille, mais je me suis dit, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à dire, mais je vais vous revenir avec l'information.
Oui, il me semble que j'ai lu que c'était la première édition, mais peut-être que je dis n'importe quoi. On en reparlera plus tard, Mathieu.
D'accord.
Je vous laisse faire le reste.
Dans l'histoire... En 2010, 1er juin, le gouvernement conservateur dépose un projet de loi pour mettre fin au versement des prestations de la sécurité de vieillesse aux prisonniers. En 2006, le Québec et l'Ontario adoptent une ouverture mutuelle de leur marché de la construction pour la main-d'œuvre et les entrepreneurs. Le 1er juin 2004, en Colombie-Britannique, le juge David Ramsey écope de 7 ans de prison pour des viols d'Autochtones âgés de 12 à 16 ans. En 2001, histoire assez sordide aussi, le 1er juin 2001, le prince Dipendra tue son père et sa mère, reine et roi du Népal, et 7 autres personnes et se suicide pour une querelle due à son idylle avec une étrangère. 1er juin 1990, les présidents américains et russes George Bush et Mikhail Gorbatchev signent un traité pour la destruction des armes chimiques. La Rhodésie en 1979 devient le Zimbabwe, et à sa tête, l'évêque Abel Muzorewa, le premier gouvernement noir. 1974, à Saint-Joseph-de-la-Rive, dans Charlevoix, un autocar plonge dans un ravin, tuant 14 ou 13 personnes, personnes âgées. 1973, le Honduras britannique prend le nom de Belle-Île, 1er juin. En 1972, Bagdad nationalise des gisements de l'Irak. Oui, et le Petroleum Company est donc né. 1964, à Washington, la Cour suprême déclare illégales les prières et l'enseignement de la Bible à l'école publique. Charles de Gaulle, en 1958, redevient premier ministre en France à la suite du soulèvement colonial en Algérie. Jean Lesage, en 1958, 1er juin, est élu chef du Parti libéral du Québec. 1950, la revue politique Cité libre est fondée avec Gérard Pelletier et Pierre-Éliott Trudeau dans sa première équipe. 1880, dans ses locaux de New Haven, la Connecticut Telephone Company installe le tout premier téléphone public. 1831, 1er juin, l'explorateur James Ross repère le pôle nord magnétique dans le Grand Nord canadien. En 1776, la Déclaration d'indépendance est signée à Philadelphie par les délégués de 13 colonies américaines. Et le 1er juin 1609, Samuel de Champlain atteint un lac qui porte aujourd'hui son nom aux confins du Québec et de l'État de New York.
Et un pont aussi.
Et un pont.
Qui fait couler beaucoup d'encre.
Oui, effectivement. Et pour ce qui est des naissances, nous avons Marilyn Monroe, l'actrice qui est née en 1926. Et pour ce qui est des décès, nous avons, en 2008, le couturier français Yves Saint-Laurent nous a quittés, lui qui était né en 1936, et le journaliste et homme politique québécois André Laurendeau nous a quittés.
Ah oui, il fait la une du Devoir, je vous en parlerai un petit peu plus tard, et j'ai travaillé un petit peu pour vous aussi,
vous êtes
Mathieu.
Bien aimable.
La Journée nationale du donut existe depuis 1938, donc 80 ans cette année.
C'est une très longue première édition.
C'est l'armée du salut de Chicago qui a créé cette journée pour rendre hommage aux femmes qui avaient servi des donuts aux soldats durant la Première Guerre mondiale. La tradition a perduré au fil des années, même si bien peu de gens connaissent l'origine du National Donut Day. Maintenant, on en sait plus.
Merci beaucoup.
Allez-vous en manger aujourd'hui?
Je sais pas mon nom. C'est pas ce que je préfère.
C'est pas votre tasse de thé.
Je mangerais bien une goodie au mar,
par exemple. Oui. On en a parlé hier et ça vous a fait saliver, ainsi que moi.
J'y ai passé toute la soirée.
Ben là, lâchez-vous loose en fin de semaine.
J'y vais en fin de semaine,
oui.
Voilà.
OK, merci. À la une de la presse, surtaxe sur l'acier et l'aluminium canadien, on ne rit plus. Justin Trudeau a riposté avec virulence hier aux tarifs douaniers imposés par Washington. Ces tensions historiques entre les deux éternels alliés marquent-elles le début d'une guerre commerciale? Voici tout ce qu'il vous faut savoir. Et à ce propos, la chronique d'Yves Boisvert s'intitule « La semaine où Trudeau est devenu premier ministre ». Deux nouvelles écoles au centre-ville. Et aussi, pose chic, pourquoi vos vêtements s'usent-ils si vite? Trudeau annonce des mesures de représailles. Le gouvernement Trudeau n'a pas l'intention de tendre l'autre joue après la décision de l'administration Trump de frapper le Canada de tarifs douaniers de 25 % sur ses exportations d'acier et de 10 % sur ses exportations d'aluminium depuis minuit hier soir. Ce sera la loi du talion qui s'appliquera, œil pour œil, dent pour dent. À compter du 1er juillet, le gouvernement canadien imposera des mesures de représailles de la même ampleur qui prendront la forme de surtaxes ou d'autres mesures similaires sur les importations d'acier, d'aluminium et d'autres produits venant des États-Unis, ont indiqué hier le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland. À une semaine du sommet du G7 à la Malbaie dans la région de Charlevoix, où sont attendus le président américain Donald Trump et les leaders des pays les plus industrialisés, les tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada bousculent l'ordre du jour établi par M. Trudeau, l'hôte du sommet. Les tensions commerciales sont d'autant plus vives entre les deux pays que M. Trudeau a révélé hier avoir proposé la semaine dernière à son homologue américain de se rendre à Washington pour conclure les négociations visant à moderniser l'accord de libre-échange nord-américain, convaincu qu'une entente était à la portée de la main. Mais il a renoncé à ce projet mardi soir après avoir reçu un appel téléphonique du vice-président Mike Pence exigeant que le Canada accepte au préalable d'inclure une clause crépusculaire de 5 ans dans la nouvelle mouture de l'accord. Cela aurait forcé le Canada, les États-Unis et le Mexique à retourner à la table de négociation tous les 5 ans. Aucun premier ministre canadien n'acceptera jamais une telle clause. Alors évidemment, nous ne nous sommes pas rendus à Washington pour faire cette journée de négociation, a dit Justin Trudeau en conférence de presse. Et mise à jour en direct donc dans la presse plus, fidèle à son habitude, le président des États-Unis Donald Trump a réagi sur son compte Twitter à l'imposition de tarifs douaniers sur les prix de l'acier et de l'aluminium canadien. Le Canada met à mal notre industrie agricole ainsi que nos fermiers de manière inadéquate depuis fort longtemps. Très contraignant au plan commercial, point d'exclamation. Il doit ouvrir son marché et s'affranchir de ses barrières commerciales, peut-on lire dans son dernier tweet. Allons-y avec la chronique d'Yves Boisvert. Les historiens, je crois, regarderont un jour la semaine du 27 mai 2018 comme celle où Justin Trudeau est devenu premier ministre. En 48 heures, il a changé de personnage. Kinder Morgan mardi, bang. La déclaration de guerre commerciale aux États-Unis de Trump hier, bang, bang. Deux petites journées, deux jours qui l'ont finalement lesté de plomb. On ne peut pas passer 4 ans dans le rôle du baladin politique, la fleur à la boutonnière, la larme à l'œil, les bons sentiments et les paroles généreuses à la bouche, à éviter les conflits et les décisions qui font mal. Un jour, il faut enlever ces déguisements colorés, passer le test du réel. C'est arrivé cette semaine, on ne sait pas ce que ça va donner, mais en 48 heures, l'homme est passé de l'incarnation benoîte d'une sorte de Canada rose bonbon à chef de gouvernement. Ou bien l'homme des jours ensoleillés ne s'en remettra pas, ou bien il grandira enfin dans la fonction. Deux nouvelles écoles primaires verront le jour au centre-ville de Montréal. Une demande de longue date de la Commission scolaire de Montréal a appris la presse. Québec donne son feu vert à des projets de construction comme on n'en a pas vu depuis belle lurette au cœur de la métropole. Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, en fera l'annonce aujourd'hui aux côtés de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et de la présidente de la CSDM, Catherine Harel-Bourdon. L'une des écoles sera construite sur le site de l'ancienne maison mère des Sœurs Grises. L'Université Concordia, qui avait acheté le complexe de la congrégation religieuse en 2004 pour y aménager un nouveau pavillon, vend une portion de terrain inoccupé à la CSDM. Québec finance l'opération. 50 millions, facture totale du projet d'école sur le site de l'ancienne maison mère des Sœurs Grises. L'autre école primaire sera aménagée à l'ancienne Académie Bourget, rue de la Montagne. À Québec, hier, Sébastien Proulx a détaillé ses investissements en matière d'infrastructures scolaires pour la prochaine année. Quelque 965 millions seront consacrés à la rénovation des écoles contre 740 millions l'an dernier. Et 608 millions serviront à agrandir ou construire en tout 50 écoles primaires et secondaires. C'était 553 millions l'an dernier. Une école sur deux est en mauvais ou très mauvais état, ce qui pousse le gouvernement à investir davantage pour les réparer. L'état des ponts et tunnels de Montréal continue à s'améliorer. 8 structures nécessitent actuellement des travaux majeurs contre une cinquantaine dans un état déficient ou critique en 2011. Le titre de la pire infrastructure revient cette année à un pont d'étagement de la rue Jean-Talon, ouest, où des ingénieurs ont relevé de nombreux problèmes de corrosion et de fissures. Confrontée à une augmentation constante du nombre d'élèves, la Commission scolaire de Laval fermera 22 classes spécialisées à la rentrée prochaine, une mesure qui s'explique par un manque d'espace et qui aura pour conséquence d'augmenter le nombre d'enfants par classe. Ce sont des élèves vulnérables qui ont de grands besoins, s'inquiète André Arsenault, responsable du dossier élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, et membre du conseil d'administration du syndicat de l'enseignement de la région de Laval. Les enseignants auront moins de temps pour chacun. Cela va affecter la réussite des élèves. Comment justifier ces fermetures? Cela s'explique principalement par l'hypercroissance de notre clientèle scolaire, dont le rythme est tel que même si nous réalisons plusieurs projets de construction et d'agrandissement d'écoles, nous devons trouver des solutions pour accueillir tous nos élèves, justifie Louise Lortie, présidente de la CSDL. Conséquence de ces fermetures, il y aura en moyenne un élève de plus par classe au primaire et 2 élèves de plus par groupe au secondaire dans ces classes spécialisées. Et le Parlement danois a adopté hier une loi interdisant le port du voile intégral islamique, burqa ou niqab, dans l'espace public, suivant ainsi d'autres pays européens comme la France ou la Belgique.
Débarque sa côte ouest. Moi, jeune vampire de l'est. la peau qui craque au soleil. Hey, hey. Mon cœur lui chante au cornet. Café au matin, juste avant de fumer son joint. Et je m'accroche à ses lèvres comme un fou et je l'aime. A man's gotta do what he's gotta do. A man's gotta do what he's gotta do. À ses ailes comme un fou et je l'aime. A man's gotta do what he's gotta do. A man's gotta do what he's gotta do. Fait penser au travail l'hiver et oublier tous mes calvaires. On a pensé au travail l'hiver et réalisé tous mes prières.
Raphaël Denomé, une nouveauté, Vampire de l'Est.
À la une du Devoir du 1er juin 2018, aluminium et acier, la riposte. Le Canada, l'Union européenne et le Mexique imposeront des tarifs à des produits américains en représailles aux droits de douane sur l'aluminium et l'acier que le gouvernement Trump vient lui-même de mettre en vigueur. Maison de chambre, mourir en silence. Cas de négligence, une enquête a été ouverte après la découverte d'un homme mort depuis quelques jours et d'un autre paralysé à la suite d'un AVC. Réglementation, le CRTC change de fréquence. L'organisme recommande que Netflix et Spotify financent le contenu canadien. André Laurando, figure exemplaire de l'intellectuel, il y a 50 ans s'éteignait l'ancien rédacteur en chef du Devoir. Un G6 contre 1, le G7 n'est plus le club des économies les plus influentes du monde depuis longtemps, mais est-il seulement encore un club? Week-end, l'art s'expose mur à mur. Zeitgeist, c'est la chronique de José Blanchette. Même les oiseaux sont volages. Et Néonic vers un premier bannissement? Alors qu'un rapport accablant a été rendu public sur l'insalubrité des maisons de chambre sur l'île de Montréal, Le Devoir a appris que le bureau du coroner enquête sur un décès survenu au centre d'hébergement Rachel, une maison de chambre dans Rosemont-la-Petite-Patrie. La police aurait également ouvert une enquête, mais qui serait depuis inactive. En janvier dernier, un résident de cette maison de chambre du boulevard Rosemont, aussi appelé Centre Rosemont, était décédé depuis quelques jours lorsque des ambulanciers ont été appelés sur les lieux. À l'étage, ils ont également découvert un homme paralysé depuis plusieurs jours en raison d'un AVC, couché sur son lit, empreint de son urine et ses défécations et qui fourmillait d'insectes. La scène était d'une telle horreur qu'un signalement du personnel du réseau de la santé a été fait à la commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CIU 3S de l'Est de l'île de Montréal. Après vérification, celle-ci dit l'avoir acheminé au SPVM pour enquête. Le dossier est fermé depuis, en vertu de la nouvelle loi 115 visant à lutter contre la maltraitance des aînés et des personnes en situation de vulnérabilité qui élargit désormais ses pouvoirs. Au Centre Rosemont, les portes extérieures ne sont pas verrouillées et il n'y a pas de sonnette ni d'interphone, ce qui viole la réglementation municipale. L'endroit n'est pas reluisant de propreté et il y flotte une odeur d'urine. Dans un dédale de couloirs, des portes s'ouvrent sur des dizaines de chambres individuelles ou partagées, comme a pu le constater Le Devoir. L'administrateur Daniel Serre dit pour sa part faire son possible. M. Serre rappelle que ce n'est pas une clientèle facile. Je ne vous le cache pas, ce sont des itinérants et en général, ils ont soit des problèmes d'alcool, de drogue ou de jeu. Ils couchent dans les parcs et certains ramassent des cochonneries. Les références viennent de partout, du réseau de la santé, des établissements spécialisés en santé mentale et même de la police. Comment assurer leur sécurité et prévenir les sévices? Il n'existe aucune liste répertoriant les maisons de chambre privées. Pierre Gaudreau, du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, reconnaît qu'il peut y avoir des sévices, et pas juste un, dans ces maisons qui, étonnamment, peuvent être très rentables. Mais il ne faut pas les faire fermer pour autant, croit-il. Daniel Serre du Centre Rosemont est ouvert à l'idée d'une certification pour peu que les exigences ne soient pas énormes. Sinon, je vais être obligé d'arrêter. C'est un changement de cap majeur pour le CRTC après deux décennies à prôner qu'il fallait laisser Internet se développer sans contraintes réglementaires. L'organisme fédéral constate que le système actuel ne tient plus et suggère des modifications aux allures de petites révolutions. Concrètement, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes suggère au gouvernement que les fournisseurs d'accès Internet et les services de visionnement ou d'écoute en ligne, Netflix et autres, Spotify, contribuent eux aussi au financement du contenu canadien. Ils proposent également d'abandonner le modèle existant d'octroi de licence prévu dans la loi sur la radiodiffusion pour adopter un nouveau système jugé plus flexible et mieux adapté au contexte actuel, celui d'accords de services détaillés et contraignants. Les acteurs traditionnels comme les nouveaux joueurs devraient en signer pour offrir leurs services au Canada. Les parents de quelques 4 000 enfants des régions de Montréal et de Laval devront se trouver un plan B à compter du 6 juin pour la garde de leurs enfants. Plus de 1 500 employés d'une soixantaine de centres de la petite enfance enclencheront le mandat de grève générale illimité qui a été voté à 91 % plus tôt ce mois-ci. La CSN, qui représente les travailleuses, 97 % sont des femmes, confirme que l'impasse actuelle dans les négociations mène à cette escalade dans les moyens de pression. Notre but ultime, c'est de ne pas se rendre à la grève générale illimitée, a déclaré Nathalie Fontaine peu avant d'entreprendre une rencontre de négociation jeudi après-midi. La première vice-présidente à la négociation du syndicat des travailleuses de CPE-CSN déplore que l'impasse soit totale sur les points en litige, tels les horaires de travail et l'ancienneté. Santé Canada projette d'interdire l'utilisation de l'imidacloprid, un insecticide de la classe des néonicotinoïdes, pour toutes les cultures agricoles et les autres usages extérieurs en raison de son effet nocif sur les insectes bénéfiques, dont les abeilles. Cette réglementation, si elle est adoptée en décembre 2018, serait mise en application de façon graduelle jusqu'à une interdiction totale 5 ans plus tard. L'Union européenne bannira quant à elle l'imidacloprid ainsi que deux autres néonicotinoïdes d'ici la fin de 2018. Dans une lettre ouverte publiée hier dans la revue Science, 232 scientifiques des quatre coins du monde réclament la mise en place immédiate de mesures nationales et internationales visant à restreindre considérablement l'utilisation des néonicotinoïdes et d'empêcher l'homologation d'autres produits agrochimiques nocifs semblables. Faute de telles mesures, le déclin des insectes bénéfiques, voire d'une fraction substantielle de la biodiversité, se poursuivra, font-ils valoir. Éric Lucas, du département des sciences biologiques de l'UQAM, croit que c'est la méthode qui doit être remise en question, car interdire un insecticide pour qu'un autre prenne sa place tout simplement parce qu'il n'a pas encore commencé à causer des dégâts, ça ne réglera pas le problème. Après des mois de querelles internes, les démissions de 7 députés de la vice-présidente du parti de son trésorier et le désaveu public de Mario Beaulieu à Martine Ouellet, la chef du Bloc québécois connaîtra cette fin de semaine le sort que lui réservent les bloquistes. Les 15 000 membres du parti souverainiste se prononceront sur son leadership et sur le mandat du parti vendredi et samedi. Les résultats de ce référendum seront dévoilés dimanche à Montréal. Le service de sécurité incendie de Montréal part en guerre contre la fâcheuse habitude de certains fumeurs de jeter leurs mégots de cigarettes dans les pots à fleurs et les plates-bandes pourtant inflammables. L'engrais chimique peut s'enflammer jusqu'à 5 heures après avoir été exposé à la chaleur d'un mégot. Les flammes qui ont dévoré le toit de l'édifice du journal Le Devoir le 14 mai dernier ont justement pris naissance dans un pot de fleurs. Et le dialogue entre Washington et Pyongyang a permis de faire de vrais progrès vers l'organisation d'un sommet historique entre Kim Jong-un et Donald Trump qui doit recevoir incessamment un courrier du dirigeant nord-coréen. On va dans la bonne direction, a assuré jeudi le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, au terme de deux jours de réunion à New York avec le bras droit de Kim Jong-un, le général Kim Jong-un. Seoul, qui est le plus haut dirigeant nord-coréen à se rendre aux États-Unis depuis 18 ans.
Tout
Ariane Moffat et sa chanson « Fracture du crâne ».
Alors, à la une du Journal de Montréal, un drapeau américain, un drapeau canadien, et entre les deux, une espèce de déchirure, c'est la guerre commerciale. Ces produits et plus de 100 autres seront surtaxés. On voit entre autres des images de café, de cartes à jouer, de papier hygiénique, de ketchup, de pizza et autres. Échange de Lars Eller. Le Canadien s'est trompé. Voir la chronique d'Yvon Penneau. Il vous cache des choses. Chagnon garde son vin secret. Les stations mobiles arrivent en ville. Nouveau concurrent dans l'essence, Mobil arrive au Québec. Oui, j'ai francisé, Mathieu. J'ai dit mobile parce qu'ils s'en viennent au Québec, mais c'est vrai qu'il faut dire mobile. Des chauffeurs de Théo Taxi veulent être syndiqués. Des employés sont insatisfaits du climat de travail, du salaire et des horaires. Se plaignant d'un mauvais climat de travail, d'horaires impossibles et de problèmes de paye, des chauffeurs de Théo Taxi sont si frustrés envers leur employeur qu'ils ont déposé une demande formelle pour se syndiquer, a appris le Journal de Montréal. Ayant reçu l'appui d'assez de chauffeurs, le syndicat Teamsters Québec a déposé le 22 mai au tribunal administratif du travail une première requête en accréditation syndicale visant tous les salariés de l'entreprise de taxi électrique d'Alexandre Taillefer. Théo Taxi admet qu'il y a eu des lacunes concernant la communication entre la direction et ses 1000 chauffeurs depuis un certain temps, mais nie l'existence de la majorité des problèmes évoqués par des employés au journal. Alors, ces problèmes, on en parle un petit peu plus avant dans l'article, c'est-à-dire que les chauffeurs dénonçaient, en fait, de nombreux chauffeurs dénonçaient des horaires de travail qui affectaient leur vie familiale, le salaire de 15 $ de l'heure et le sentiment de toujours être épié par l'employeur qui limite même leur pause toilette. Il ne dévoilera ni le coût du vin, ni celui des petites culottes. Jacques Chagnon a soutenu que le prix des bouteilles ne serait pas ventilé. Le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, n'a pas l'intention de ventiler les dépenses en alcool lors des missions parlementaires, ni celles du teinturier pour vos petites culottes, entre guillemets. Le coût des bouteilles de vin va être inclus dans le montant global, a lancé le député libéral lors d'une mêlée de presse à la sortie d'une réunion du bureau de l'Assemblée qui portait sur la transparence des missions à l'étranger. Il ne sera pas détaillé, a alors demandé un reporter. Et puis, le coût du teinturier pour vos petites culottes non plus, a rétorqué M. Chagnon, visiblement courroucé. Les profs pas forcés d'enseigner la sexualité. Les commissions scolaires devront embaucher à l'externe des travailleurs sociaux ou organismes communautaires pour donner les capsules d'éducation à la sexualité l'an prochain s'ils ne trouvent pas suffisamment de profs volontaires. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Éducation Sébastien Proux hier en mêlée de presse. Le journal publiait hier que le syndicat de Champlain sur la rive sud avait invité ses membres à ne pas se porter volontaires pour enseigner l'éducation à la sexualité. Les profs qui ne veulent pas le faire ne sont pas obligés de le faire, a-t-il rappelé. Les canevas pédagogiques du programme sont presque terminés et les conseillers pédagogiques des commissions scolaires ont été formés ou s'apprêtent à l'être. La CAQ peaufine la préparation de son chef, François Legault, coaché pour améliorer ses discours. Depuis plus d'un an, François Legault reçoit des formations pour améliorer sa livraison de discours et sa maîtrise de l'anglais. Dans la dernière étape vers la lutte électorale, la CAQ peaufine la préparation de son chef. Lors du discours de clôture du récent Congrès national du parti, les observateurs ont constaté une nette différence dans le ton utilisé par le chef caquiste pour fouetter ses troupes. François Legault, qui cherche à faire des gains chez les non-francophones, a également réservé une importante partie de son discours aux électeurs anglophones. Jean-François Lisée, quant à lui, n'a pas jugé bon suivre les traces de sa prédécesseure, c'est-à-dire Pauline Marois, qui avait embauché le metteur en scène Yves Desgagnés pour la conseiller durant la campagne électorale de 2014. Le chef péquiste n'a eu recours à aucune ressource externe pour le conseiller en matière de communication publique. Le fédéral envisage que soit inscrite sur chaque cigarette une mise en garde sur les dangers du tabagisme au grand plaisir de la Société canadienne du cancer. Cette dernière a déjà produit une étude imaginant à quoi ressembleraient de telles cigarettes. Avec 27 milliards de cigarettes qui sont vendues chaque année au Canada, c'est une façon efficace de communiquer avec les consommateurs, assure Rob Cunningham de la Société. L'idée plaît beaucoup à la ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas-Taylor, qui assure que le sujet sera étudié par ses spécialistes. Des dizaines de rues fermées à Montréal. La circulation sera perturbée à partir de 18h30 ce soir. Les automobilistes montréalais devront adapter leur déplacement alors que deux tours cyclistes forceront la fermeture de dizaines de rues aujourd'hui et dimanche. Ce soir, une cinquantaine de rues seront fermées progressivement de 18h30 à minuit en raison du Tour de la Nuit, un événement organisé par Vélo Québec dans le cadre du Festival Go Vélo. Et plus de 20 000 cyclistes pourraient prendre part au Tour de l'île dimanche, qui entraînera la fermeture d'environ 80 rues entre 6 heures le matin et 16h30. L'Italie a depuis hier soir le premier gouvernement populiste de son histoire dirigé par un inconnu, Giuseppe Conte, après une crise politique sans précédent entre le président italien et les chefs de file du mouvement 5 étoiles et de la Ligue. Cette fois, le président Sergio Mattarella a validé la liste des membres de l'équipe gouvernementale âprement négociée par les deux alliés pour appliquer le programme anti-austérité et sécuritaire sur lequel il s'était accordé il y a près de deux semaines. Dimanche, il avait mis un veto spectaculaire à une première liste déjà présentée par Giuseppe Conte, 53 ans, professeur de droit totalement novice en politique. « Faute de garanties suffisantes », avait-il expliqué, sur le maintien de l'Italie dans la zone euro. Les deux dirigeants des antisystèmes et de l'extrême droite, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, deviennent désormais vice-premier ministre. Le gouvernement doit prêter serment aujourd'hui à 16 heures.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum chibum. Do 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 do, chibum chibum. Do 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 do. Via via, vieni via con me. entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do, chip, chip, boom. Do-do-do-do-do, chip, chip, boom. Do-do-do-do-do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do.
I dream of you. C'était Vida con me, Paolo Conte.
Les journaux régionaux, nouveaux plans pour le Château Laurier, nouveau, dis-je bien. Le projet d'agrandissement du Château Laurier prend une nouvelle forme. Le propriétaire de l'hôtel Larco Investments a soumis pour la quatrième fois des plans pour la construction d'une annexe de 7 étages à l'arrière du bâtiment. Les 3 dernières propositions de Larco Investments ont essuyé de vives critiques de la part du public et des élus municipaux. La difficulté était de conjuguer l'allure centenaire et une structure contemporaine. La nouvelle annexe serait dotée d'un revêtement de pierre, de verre et de bronze et comprendrait 164 chambres de long séjour, en plus d'une cour intérieure et d'un espace de stationnement souterrain. Le plan propose de conserver le Château Laurier dans sa totalité et d'y ajouter un pavillon en L, en forme de L, qui serait relié à l'hôtel par un lien vitré. Des matériaux comme le calcaire, des blocs de pierre et des ailerons de bronze seraient utilisés. La vue de l'immeuble historique et de son toit serait visible depuis le parc Major's Hill. Des blocs de pierre disposés de manière irrégulière et des ailerons en bronze feront saillie, mais la façade extérieure aura davantage l'aspect de la pierre quand elle sera vue de côté. Un lien visuel sera créé entre l'annexe et le parc Major's Hill au nord au moyen d'un long couloir bordant la façade nord, peut-on lire dans les détails de la proposition. La firme d'architectes ERA ou IRA estime que le nouveau modèle permet de protéger les valeurs patrimoniales de l'hôtel et du secteur environnant. Avant d'obtenir le feu vert, le projet sera soumis à divers comités à la ville d'Ottawa. Le sous-comité du patrimoine bâti examinera la proposition le 18 juin prochain. Le comité de l'urbanisme et le conseil municipal s'y pencheront à leur tour les 26 et 27 juin respectivement. Les citoyens pourront s'exprimer sur les nouveaux plans lors des réunions des 18 et 26 juin. Rappelons que les premières ébauches présentées en septembre 2016 avaient suscité de nombreuses réactions. Plusieurs avaient qualifié le projet de hideux, tandis que d'autres critiquaient le choix d'un style plus contemporain pour cet édifice centenaire. Le maire d'Ottawa, Jim Watson, n'avait pas caché sa déception à l'égard du projet. Une deuxième ébauche avait été dévoilée en novembre 2016 pour mener à une troisième esquisse en février dernier. Dans le Nouvelliste, Brigitte Trahan, la présence d'un animal lors d'une intervention en milieu de santé ou de services sociaux peut parfois faire toute une différence. La zoothérapeute Hélène Morin de l'entreprise Synergie Plumes et Poils et ses partenaires viennent donc de créer une formation d'appoint unique au Québec qui permettra à divers professionnels d'obtenir une qualification d'intervenant en zoothérapie. La formation ne permet pas de devenir zoothérapeute comme tel, précise toutefois Mme Morin, et ne s'adresse donc pas au public en général. Il s'agit plutôt d'une formation d'appoint destinée à divers intervenants en relation d'aide comme des psychoéducateurs, ergothérapeutes, éducateurs spécialisés, entraîneurs canins, enseignants et éthologues, de même qu'aux zoothérapeutes ayant plus de 10 ans d'expérience. D'une durée de 120 heures, le cours sera offert à Trois-Rivières et s'adresse aux professionnels de tout le Québec. Il démarre cet été et sera axé sur la pratique terrain de la zoothérapie en équipe multidisciplinaire et sur la pratique orientée sur les plus récentes recherches scientifiques. L'accent sera mis sur le développement de la créativité et des outils d'intervention. Il y aura évaluation et entraînement du partenaire canin de l'aspirant intervenant en zoothérapie. Un stage supervisé fait partie de cette formation, de même qu'un cours en application technique de la zoothérapie auprès de diverses clientèles. Et la première cohorte démarre à la mi-août, indique Mme Morin, qui est membre de la Corporation des zoothérapeutes du Québec. Cette passionnée des animaux a démarré son entreprise de zoothérapie en 2010. Elle œuvre avec ses compagnons à quatre pattes ou à deux ailes auprès d'une clientèle variée, allant de personnes aux prises avec des problèmes de santé physique, psychologique ou mentale, comme l'Alzheimer, la dépression, en passant par la toxicomanie et les difficultés d'apprentissage. L'entreprise qu'elle a fondée s'intéresse au domaine de la thérapie et des activités pédagogiques et offre même des activités de divertissement. Dans le soleil, pas de fumier dans Charlevoix pendant le G7. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, MAPAC, a demandé aux agriculteurs de Charlevoix de ne pas épandre de fumier du 1er au 9 juin afin de ne pas indisposer les chefs d'État et de gouvernement des pays du G7. Une demande jugée farfelue par le Parti québécois qui a pressé jeudi le ministre Laurent Lessard d'annuler cette directive. La nouvelle a d'abord été rapportée mercredi par la Terre de chez nous. Nous demandons votre collaboration pour que le séjour de nos invités sur notre terre d'accueil soit aussi agréable que positif. Pour cela, tous les éléments d'hospitalité revêtent une importance notable, disait le mémo que le MAPAC a fait parvenir il y a une semaine à la Fédération de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord et dans lequel il priait les agriculteurs de s'abstenir d'épandre du fumier entre le 1er et le 9 juin. Selon ce qu'il a été possible d'apprendre, c'est Affaires mondiales Canada qui aurait été à l'origine de la demande transmise au MAPAC, qu'il a ensuite fait suivre à la Fédération. Il semble que l'organisation responsable de la tenue du sommet s'inquiétait des odeurs d'épandage pouvant être perçues avant et après l'événement, et qu'elle aurait demandé qu'une communication de sensibilisation soit faite à cet effet auprès de l'industrie agricole. Il n'était pas question pour nous qu'on impose ça aux producteurs, mais le mémo envoyé par courriel à la Fédération a été envoyé par erreur aux producteurs qui ont très mal réagi. Charlevoix, ce n'est pas la Montérégie. Dans les secteurs plus montagneux, l'eau a pris du temps à se retirer parce qu'il a fait froid ce printemps, de sorte que les gens n'ont pas pu entrer dans les champs avant le 23 ou le 24 mai. Or, il faut épandre avant de semer et la date limite des semis de la financière agricole est le 15 juin. A rappelé en entrevue au Soleil la présidente de la Fédération de l'UPA de la Capitale-Nationale Côte-Nord et agricultrice de la Malbaie, Jacinthe Gagnon. Le long de la 138 et de la 362, les gens ont été capables d'entrer avant dans les champs et de finir l'épandage, ce qui n'est pas le cas pour les producteurs de l'arrière-pays. Là, le beau temps joue en notre faveur. On devrait avoir fini l'épandage mardi ou mercredi prochain, mais ce ne sera assurément pas fini pour demain. Vendredi 1er juin, avertit Jacinthe Gagnon. L'information parue dans la Terre de chez nous a donné lieu à un débat à l'Assemblée nationale jeudi. Le ministère de l'Agriculture demande aux agriculteurs de cesser leurs opérations et d'ainsi mettre à risque les rendements des agriculteurs, a pesté le péquiste André Villeneuve. Ces gens-là se lèvent avant le soleil et se couchent après le soleil, a poursuivi le député. Je pense qu'ils méritent le respect Et les repas gastronomiques qui seront servis au G7 ne sortent pas de nulle part. Vous le savez comme moi. Ce sont des agriculteurs qui ont produit les aliments, grâce, entre autres, à la fertilisation des champs. Et d'ajouter que l'épandage de fumier, ça fait partie de la vie en région. Le ministre Laurent Lessard a justifié cette demande en faisant valoir qu'il fallait présenter la région de Charlevoix sous ses meilleurs attraits. Il y a quand même un événement international qui se tient, a commencé le ministre avant de dire que le G7 représente une occasion de présenter les produits québécois et que Charlevoix est une carte de visite à l'international. On accompagne aussi les producteurs pour faire en sorte que, pendant ces quelques jours-là, on puisse choisir d'autres périodes pour l'épandage des engrais verts et pour permettre une production optimale. Je pense que les producteurs vont collaborer et qu'on va être capable d'atteindre les résultats escomptés pour que l'événement se passe correctement. Dans le quotidien, Dave Hensley, une agréable surprise pour Joanne Leblanc. À sa grande surprise, la conseillère pédagogique des Saguenayens, Joanne Leblanc, a été honorée lors du banquet du commissaire, soulignant du même coup les 50 ans de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Quelques prix sont remis chaque année à l'occasion des assises du circuit junior majeur à des administrateurs. L'an dernier, le travail du directeur des opérations des SAG, Serge Proux, avait été récompensé. Jeudi soir, Joanne Leblanc a réellement sursauté quand elle a été nommée pour le prix Denis Arsenault, remis au conseiller pédagogique de l'année. Je ne m'y attendais pas du tout. Pour moi, je n'étais même pas admissible. C'est tout de même très agréable, a exprimé Joanne Leblanc, qui croyait que 5 années étaient nécessaires comme conseiller pédagogique alors qu'elle occupe ce poste avec les SAG depuis 4 ans. Elle est toutefois associée avec l'équipe depuis une 15aine d'années, ayant fait partie du premier comité pédagogique en 2004. Je dois avouer que mon entrée dans le monde du hockey a été très surprenante, a-t-elle dit sur la scène, concédant qu'au départ, elle n'avait aucun intérêt pour le sport. Professeure d'économie au cégep, elle avait toutefois à cœur la réussite scolaire des jeunes, ce qui a fait son chemin tant chez elle que chez les joueurs. On avait commencé à s'apercevoir que les jeunes avaient de la difficulté à réussir. La conciliation sport-études, c'est réellement un défi pour les athlètes de convenir, Joanne Leblanc, qui a profité de la tribune pour souligner le travail de l'équipe et la collaboration autour d'elle, que ce soit l'institution scolaire, les autres professeurs, ainsi que l'organisation des Saguenayens qui croit en cette valeur qu'il faut donner un plan B aux jeunes après le hockey. Depuis 15 ans, elle estime que des pas énormes ont été réalisés dans le domaine pédagogique, avec les SAG, mais aussi à travers la LHJMQ, avec l'entrée en vigueur de la politique scolaire en 2005. À la dernière session d'automne, les joueurs des SAG ont réussi leur cours à 97 % et les résultats qui viennent tout juste d'entrer pour la 15aine d'élèves du cégep font état d'un taux de réussite de 92 %. On a été parmi les premières équipes à concocter quelque chose de particulier pour les joueurs de hockey, de souligner Joanne Leblanc, qu'on salue et qu'on félicite.
C'était nous deux, il était une fois. Un motel sur la route du port, un soir banal. Deux clients, un veilleur qui s'endort, sur son journal. Il a une clé, nous dit bonsoir. Le matin, on avait réservé des chambres à part. On n'ose pas montrer qu'on sait. À 18 ans, à peine, souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était, il était une fois, nous deux. Souviens-toi, c'était le grand jour. Ne crois pas vers le grand amour. C'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. On a pris le 14 au hasard, un peu gêné. Puis ta robe a glissé dans le noir, on s'est aimé. Quand plus tard, le garçon est venu nous apporter de café, d'un sourire entendu, tu t'es caché. Il n'a pas vu que tu pleurais, l'enfance qui s'en allait. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. C'était c'était nous deux, il était une fois. Souviens-toi, souviens-toi, le chemin des amours. C'était, il était une fois, nous deux. Souviens-toi, souviens-toi, c'était encore mieux que ça. C'était nous deux, il était une fois. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi.
Joe Dassin et sa chanson « Il était une fois, nous deux ».
Alors, allons-y avec la portion culturelle Gala Québec Cinéma. Allez-vous regarder ça en fin de semaine. Coup de gueule, l'infatigable enfant terrible. André Forcier recevra ce week-end un Iris hommage pour ses 50 ans de carrière. Le cinéaste de L'eau chaude, l'eau frette et d'eau claire de la lune doit tourner au cours de l'été son prochain long-métrage La beauté du monde, mettant en vedette Roy Dupuis dans le rôle d'un dissident d'une entreprise de type Monsanto. Et Yves Jacques, un frère Marie-Victorin réincarné. Discussion avec l'infatigable enfant terrible du cinéma québécois, c'est Marc Cassivi qui a conversé avec M. Forcier. Question. Ce prix hommage vient couronner votre carrière, point de suspension. Réponse. Je pense que j'étais dû. Vous n'en avez pas gagné tant que ça des prix. J'ai quand même une trentaine de trophées. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? C'est un prix qui me fait plaisir. Vous dites que vous étiez dû. En même temps, certains de vos plus récents films comptent parmi vos meilleurs. Est-ce que vous recevez ce prix hommage en vous disant « Attendez, j'ai pas terminé. J'ai encore des idées plein la tête et puis je ne suis pas prêt de prendre ma retraite. On aurait pu attendre encore avant de vous le remettre. Oui, mais je le prends. Il arrive au bon moment. C'est-à-dire, je vais tourner cet été La beauté du monde. » Est-ce que ça peut faciliter les choses, vous aider à financer votre prochain film? Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut influer sur les institutions. Je ne suis pas capable de le mesurer. Depuis combien de temps produisez-vous vos propres films? Depuis le retour de l'Immaculée Conception en 1971, que j'ai tourné sans l'aide des institutions, en vivotant un peu. Ça s'est imposé, le fait de produire vos films vous-même? On a produit plusieurs de nos films à compte d'auteur. Acapulco Gold, Je me souviens, Coteau Rouge, Embrasse-moi. Je suis tombée par hasard sur Coteau Rouge cette semaine à RTV. Je n'ai pas voulu le revoir. Non? C'est un film fauché, répond André Forcier. On avait investi 450 000 piastres dans Je me souviens parce que les vols d'avion en Abitibi coûtaient cher. On attendait une réponse pour les États-Unis d'Albert, que je devais tourner en anglais, mais la SODEC a trouvé que Forcier en anglais, ça n'avait pas d'allure. Alors qu'à 12 ans, je mélangeais les deux langues à Greenfield Park où j'ai grandi, j'ai désappris d'une certaine manière l'anglais, mais des fois, ça me revient. À quel point dans votre carrière avez-vous été à la merci du financement? Demande Marc Cassivi. Pour ce qui est du contenu, on est à la merci du financement. Quand j'ai tourné au Clair de la Lune, on faisait boire à nos acteurs du sirop Benylin à la codéine. On dit-tu Benylin? Comme sirop, en tout cas, c'est une sorte de sirop B-E-N-Y-L-I-N. Je ne vais pas faire de publicité, là, mais je cherchais la façon de le prononcer, Benylin. Parce qu'il y avait un groupe de musique très connu qui se dopait à la codéine. Les gars achetaient du Benylin, ils mettaient ça dans le fridge, la codéine remontait à la surface et ils se dopaient avec ça. Aujourd'hui, tu ne pourrais jamais faire ça. On fait une friture de poisson d'aquarium si boire et on a la SPCA sur le dos. Il y a une certaine censure qui s'installe pour des questions d'assurance. La manière de faire des films a beaucoup changé. À l'époque, la notion de département n'existait pas. Je déteste la notion de département. Truffaut disait qu'on faisait des films avec ses amis. Je pense aussi qu'on devrait faire des films avec nos amis. La première fois, et je cite Calice, que j'ai entendu parler du département de caméra, du département de son, du CCM, costume, coiffure, maquillage, je me suis dit « tabarnak, ça n'a pas d'allure de compartimenter l'exercice cinématographique comme ça. Il reste qu'on s'entend très bien quand même. Vous travaillez avec des habitués. Malheureusement ou heureusement, ce sont souvent les mêmes. À ma défense, je ne suis pas le seul cinéaste à le faire. Je pense qu'Arcan fait ça aussi. » Comme Arcan, vous avez brièvement été réalisateur à l'Office national du film. C'était plus facile de faire des films à cette époque? J'ai été engagé au début des années 80 comme réalisateur de fiction. On n'avait pas encore évacué la fiction de l'ONF. Il y avait plusieurs cinéastes qui ne faisaient pas de fiction et qui voulaient que l'ONF s'oriente davantage vers le documentaire. J'ai pu finir Au clair de la lune que j'avais produit au privé, grâce au soutien de l'ONF. Mais il y avait à l'intérieur de l'ONF des cinéastes qui trouvaient ça scandaleux qu'un film de privé, du privé, soit repêché par le public. J'avais une bonne partie des cinéastes notoires contre moi. Ça n'a donc jamais été facile. Je ne l'ai jamais eu trop facile. Quand on dit que vous êtes l'enfant terrible du cinéma québécois, est-ce parce que vous l'avez voulu? Michel Coulombe, que j'estime quand même beaucoup, avait déclaré à la sortie de « Je me souviens que je m'étais auto-proclamé l'enfant terrible du cinéma québécois ». Ce n'est pas vrai. Ce sont des journalistes de Toronto qui m'ont coiffé de ça. Jamais je n'aurais eu l'outrecuidance de me proclamer l'enfant terrible du cinéma québécois. Ça m'a collé au cul. À 70 ans, je suis bien content d'être encore l'enfant terrible du cinéma québécois. Votre œuvre est née de toutes sortes de difficultés. Vous avez hypothéqué votre maison. J'habitais dans un hostie de beau quartier, collectivité nouvelle. Comme on m'empêchait de tourner en anglais, j'ai fait l'erreur de le tourner en français, mais avec une patente de coproduction. Le film a perdu beaucoup du poil de la bête à cause de cette obligation de tourner le film à la française. Disons qu'on va changer de sujet. Vous avez dû vous battre pour faire vos films. J'ai des amis qui ne comprennent pas comment je peux toffer ça à 70 ans. Comment? J'ai le feu sacré, peut-être. Mais pour mon dernier film, Linda, Pinette, sa compagne et productrice, m'a dit que si je voulais qu'elle produise, je devais écrire mon prochain scénario avec mes deux gars. C'est un film en famille, donc. Bah, on peut appeler ça du népotisme. Pour en rajouter, je te dirais qu'il y a aussi mon cousin dans l'équipe de scénarisation et que Linda s'en mêle aussi. Ça a été le fun parce que mes gars, qui ont beaucoup de talent, m'ont ouvert l'esprit. Il y a des pongs dans le film. Je n'y avais jamais pensé. Est-ce que vous imaginez un jour ne plus faire de film? Je ne suis pas sûre que je vais me rendre jusqu'à 103 ans comme le réalisateur portugais, Manuel de Oliveira. Mais pour le moment, je touche du bois. Il cogne sur la table. Je suis encore capable. Je vais avoir 71 ans le 19 juillet et je vois mes chums qui ont des maux de dos épouvantables. On a un conventum de l'externat classique de Longueuil et il y a une gang dont j'ai appris la mort. Ça m'a affecté. Je suis content d'être encore actif. Je n'ai jamais imaginé la retraite. Lorsque vous jetez un regard rétrospectif sur l'ensemble de votre œuvre, êtes-vous satisfait? J'aime mes films, quoique je déteste les revoir. Est-ce que vous avez des regrets? C'est sûr que tu regardes ça. Moi, il y a un film que j'aime assez qui s'appelle « Le vent du Wyoming ». Arcan m'a dit « Il est beau ton film, mais il manque le Wyoming ». Je voulais tourner le Wyoming à la fin, mais mes producteurs ne voulaient pas. Je voulais vous parler de Netflix. Merci d'aborder le sujet. Netflix, c'est un vol à main armée. Quand tu dis que le budget de production de films n'a pas été augmenté depuis 15 ans à Téléfilm Canada, je ne veux pas être stupidement habile, mais ce n'est pas la faute des fonctionnaires qui sont là. Ils n'ont pas beaucoup d'argent et des choix difficiles à faire. À la SODEC, c'est pareil. Et Netflix, on aurait dû taxer Netflix et investir cet argent-là, il dit ces argents-là, directement dans la production de films canadiens. Je suis content pour Robin Aubert, que j'estime énormément, mais moi, je ne fais pas des films de zombies. Pour moi, le cinéma, ça se voit dans des salles, mais les salles vont disparaître. Les gens regardent les films sur leur télévision ou leur hostie d'ordinateur. Je ne suis pas capable. Pour moi, voir un film, c'est aller au cinéma avec ta blonde, acheter du popcorn et être dans une salle noire. J'espère que les gens vont redécouvrir le plaisir de voir un film en salle. Alors voilà pour la conversation, l'entrevue menée par Marc Cassivi avec André Forcier qui sera honoré au Gala Cinéma, donc dimanche, sur les ondes de Ici Radio-Canada Télé, au Gala Québec Cinéma. Haute de 62 mètres, la griffe de l'artiste René de Rouen s'étira sur les 21 étages du Mary Robert Condominium à l'angle sud-est des rues Peel et Wellington dans Griffintown. Ambitieuse, la proposition gagnante dévoilée jeudi par le promoteur Devinco Immobilier marquera le paysage montréalais par son format inusité couvrant les quatre faces des deux tours de ce projet. Baptisé un phare sur le fleuve, l'œuvre puise dans des tons de vert s'inspirant du fleuve, du territoire, mais aussi de la nordicité et de la migration, avec l'intégration d'oiseaux récurrents dans le travail de Rouen. Cette initiative dépasse largement l'immobilier. C'est un geste créatif, un legs que Devinco désire faire à Montréal, à l'arrondissement, a déclaré son président Serge Goulet. Lancé en mars dernier, le concours sur invitation comprenait Nicolas Baillé, Pascal Girardin et Doyon et Rivet.
Donnez-nous des jeux les plus malsains.
Oh oui, j'en veux.
Allez, enfermez-les. Jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus respirer, qu'on les voit mourir, éjecter, lyncher pour le pire. La cage au milieu du salon aime avoir les fauves tourner en rond et se déchiqueter pour juste une poignée de fric. Rentrez dans le moule de l'Amérique, allez saignez-vous donc en musique.
Donnez-nous du lys, de la guimauve ou du réglisse. Donnez de l'image à bouffer, pré-mâcher et prédigérer.
Donnez-nous du vice, surgelez nos vieilles idées. Vive mon frigo, vive ma télé, il est plus vide qu'elle est blindée.
Sortez-les, 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 sortez-les poubelles.
Sortez les ordures télévisuelles.
Sortez-les, 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 sortez-les au ciel.
Oh non, je suis accro.
La thune qui vaille, noyez-nous de publicité, engraissez-nous jusqu'à
éclater.
Mettez-nous les nerfs, étalez les femmes et leur chair, blindez des plus beaux apparats, excitez-nous
plus que ça.
Rendez vos sponsors, à tout bout de chance, ça pue la mort. Gerbez nos envies, nos désirs,
empêchez-nous de partir.
Donnez-nous du vice, bouchez les escaliers de service, allez séquestrer nos esprits et souriez, tout est permis.
Tirez vers le bas, ma télévision adore ça. Et tous les meubles en sont jaloux, même mon chiotte en est devenu fou.
Sortez-les,
sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles. Sentez-les, 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 sentez-les au ciel. Oh non, je suis accro.
Donnez-nous du pire. Réservez-vous pour l'avenir. Conservez votre mauvais goût pour les jours où vous serez à bout. Donnez-nous du pire, passez notre envie de réfléchir à coups de concept débilissime. Allez cracher nous vos millésimes. Je suis accro.
Conservez les coquets ou bien ronds, c'est le zoo des animateurs. Leur donnez pas de bouffe,
c'est pas l'heure.
C'est l'heure de sourire, servir de la niaiserie à mourir, à nous goinfrer, à nous gaver. C'est pour nous, c'est pour nous.
Divertir.
Donnez-nous de la meuf décolorée, les en jaune de phale et souris-moi, souris-moi et faites gicler vos proies.
Sortez-les, 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 sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles. Sentez-les, 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 sentez-les au ciel. Oh non, je suis accro.
Donnez-nous des stars, de celles qui crachent dans leur bavoir et filmez leurs fêtes minables au fin fond de leur bac à sable. Et lâchez vos bombes, de celles qui sont nauséabondes, inondez nos vies, nos foyers. Vous êtes si présents qu'on est teubés. Donnez-nous du pire, réservez-vous pour l'avenir. Conservez votre mauvais goût pour les jours où vous serez à vous. Tirez vers le bas, ma télévision adore ça. Et tous les meubles en sont jaloux, même le chiot en est devenu.
Sortez-les, 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 sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles. Sentez-les, 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 sentez-les au ciel. Oh non, je suis accro.
Trio, leur chanson, sortez-les.
Sujet libre avec beaucoup de culturel. J'ai quelques suggestions de sorties à faire, à vous proposer via ce que j'ai lu dans les journaux. Alors, un projet de loi pour la presse, la ministre de la Culture et des Communications, Marie Montpetit, a déposé un projet de loi permettant à la presse de passer sous le contrôle d'un organisme à but non lucratif, au BNL, à l'Assemblée nationale jeudi. Formé de deux articles, le projet de loi 400 abroge une disposition d'une loi privée adoptée en 1967, empêchant au quotidien de changer de main sans l'autorisation du Parlement. Le Parti québécois et l'élue indépendante Martine Ouellette refusent de l'appuyer tant que la famille Desmarais s'entêtera à garder la main haute sur son conseil d'administration de la presse, ont-ils averti. Critique cinéma, les films sortent aujourd'hui, comme à tous les vendredis, à de nouveaux films qui prennent l'affiche. Comment survivre à l'adolescente? Alors, La chute de Sparte de Tristan Dubois, avec Lévis Doré, Jonathan Saint-Armand, Liliane de Francesco. C'est Nathalie Petrovski qui en parle. Depuis les 400 coups de François Truffaut, l'adolescence au cinéma a souvent été traitée comme une initiation douloureuse à la désillusion, qui se termine au mieux avec une fin ouverte, au pire avec une tragédie. Pourtant, dans la vraie vie, les adolescents ne sont pas tous des victimes d'intimidation ou d'homophobie, ni des candidats au suicide. Et même quand ils font face à ces grandes épreuves, la plupart réussissent à s'en sortir sans trop de séquelles. C'est en gros ce qui arrive à Steve Simard, interprété avec une belle justesse par Lévis Doré, dans le rôle d'un ado de Saint-Lambert en révolte contre un milieu familial bourgeois, et aseptisé dont il s'échappe grâce à la littérature et aux poèmes de Gaston Miron. Adaptation pour le cinéma du roman jeunesse de Sébastien Fréchette, alias Biz, ce film réalisé par l'ex-comédien Tristan Dubois, La chute de Sparte, ressemble parfois au 1:54 ou 1h54 ou 1:54 de Jan Englund. J'ai pas vu le film, alors comment? 1:54. Alors, le film de Jan Englund, tout en y étant diamétralement opposé. La vie dans une polyvalente y est évoquée avec ses écueils et ses drames, mais c'est le ton qui fait la différence. Le ton ici est acide, ironique, cinglant et parfois furieusement drôle. et le propos qui le sous-tend divertissant tout en nous servant une critique féroce de la société, du confort somnolent de ses banlieues, de ses usines à diplômes et de son inculture crasse et généralisée. L'autre grande différence avec ce film, c'est la mise en image du réalisateur Tristan Dubois. Sous une influence américaine certaine, il nous offre des couleurs éclatantes et des plans et plongées sur la désolation de la banlieue à couper le souffle, avant de nous catapulter dans la Grèce antique où des Spartiates armés et casqués s'avancent sur le terrain de football de la polyvalente Gaston Miron avec la ferme intention de réduire leurs adversaires en bouillie. L'humour, les références littéraires, le rap qui rythme le montage, l'entrée par effraction de la Grèce antique dans le Québec d'aujourd'hui, la belle diversité des jeunes acteurs comme Jonathan Saint-Armand dans le rôle de Virgile, le meilleur ami de Steve ou de Lily-Anne de Francesco qui interprète la belle Véronique, tout cela contribue à faire de La chute de Sparte un film attachant, jamais ennuyeux, et bien que les adultes n'y aient pas toujours le beau rôle, parfaitement intergénérationnel. Le film n'est pas sans faille pour autant et trébuche à un moment très précis qu'on ne révélera pas pour ne pas tuer le punch. C'est l'épisode le plus dramatique de l'histoire. Mal scénarisé, il arrive comme un cheveu sur la soupe et tourne court avant d'ouvrir la voie à une série de scènes clichés, tirées tout droit d'un film américain. Il reste que dans cet enchaînement un peu trop larmoyant, il y a une scène extraordinairement rafraîchissante dont on ne peut rien dire, sinon qu'elle illustre la tolérance mieux que n'importe quel grand discours. Qu'on ait lu ou non La chute de Sparte, qu'on soit un ado révolté de 17 ans ou un adulte qui s'ennuie de son adolescence, ou aux prises avec un jeune troglodyte taciturne terré dans le sous-sol familial, ce film comporte assez d'éléments réjouissants pour plaire à tout le monde et surtout pour nous convaincre qu'on ne meurt pas de son adolescence. Parfois même, on en sort grandi. Et 2,5 étoiles pour le film qui fait sensation, paraît-il, en France, « Tout le monde debout » de Franck Dubosc, avec aussi Alexandra Lamy et Elsa Zilberstein. Un bof à qui on dit bof, un bof B-E-A-U-F, à qui on dit bof, B-O-F, point de suspension. C'est Marc-André Lucier qui écrit la critique du film. Ça commence mal. Dans son premier long-métrage à titre de réalisateur, Franck Dubosc incarne un bof insupportable, un beauf insupportable dont l'unique obsession est de reluquer les jupes de toutes les filles et de provoquer les occasions pour mieux regarder avec insistance celles qu'il trouve jolies. À l'ère de Me Too, quel beau timing! Évidemment, cette posture est installée pour mieux illustrer la vacuité d'un personnage qui, d'une certaine façon, se fera prendre à son propre jeu, même si, à l'arrivée, il garde quand même le beau rôle. Le personnage qu'incarne Alexandra Lamy, une personne handicapée qu'il rencontre à la suite d'un quiproquo, où il se fait passer lui-même pour une personne en fauteuil roulant, est à la fois lucide et, comment dire, plutôt conciliant. Dubosc arpente ici les arcanes de la comédie dramatique. Les gags tombent cependant souvent à plat et l'émotion se révèle trop appuyée. Cela dit, l'humoriste affiche néanmoins un beau sens de la mise en scène. On retiendra notamment cette scène formidable d'un dîner qui soudain se transforme en baignade. Si tout le film avait été de la même eau, tout le monde debout aurait pu aspirer à de belles choses. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Signalons tout de même le tabac que fait ce film en France. Plus de 2 millions de spectateurs l'ont vu depuis sa sortie il y a 2 mois. Et j'ai assisté à cette première médiatique du film dont je viens de vous lire la critique, Tout le monde debout, et la critique est encore plus sévère dans Le Devoir d'aujourd'hui. C'est une comédie romantique française, oui, avec beaucoup, beaucoup de clichés. Quelques jolies scènes, par contre, mais sans conséquences. Alors, dans le Journal de Montréal, section sortir, agenda du week-end, quelques bonnes suggestions. Foire commerciale, si vous aimez le genre, sur l'avenue du Mont-Royal. L'avenue sera piétonnière jusqu'à dimanche. Une structure tubulaire inusitée offrira un point de vue imprenable sur toute l'avenue près du boulevard Saint-Laurent. Mont-Royal-les-Bains, un projet d'architecture temporaire composé de 100 piscines où flotteront des canards jaunes, nous réjouira certainement. Aussi, festival Longue Vue sur le cours. Jusqu'à dimanche, on pourra voir plusieurs courts-métrages dans le sud-ouest de Montréal à la Maison de la culture Marie Huguet. Il reste encore quelques places pour les ateliers de création vidéo animés par des spécialistes de la Société des arts technologiques. On s'inscrit au 514-872-2044, 514-872-2044. Une journée famille est également organisée. Passez-y, faire un tour. Le branle-bas d'Hochelaga jusqu'à dimanche sur la rue Ontario-Est. Les commerçants, les artistes de cirque, les musiciens, les athlètes vous invitent à une grosse fête de quartier. 72 spectacles et animations. Il y en aura autant pour les enfants que pour les adultes. Demain, à la Place Bonaventure, de 9h à 19h, aura lieu le premier Salon international de la femme noire. Et journée des librairies indépendantes, demain, 111 librairies indépendantes ouvrent leurs portes et invitent la population à fêter le temps d'une journée d'activité bien remplie. Les libraires participantes ou les librairies participantes nous proposent diverses activités pour toute la famille. Demain, 14h, Dany Laferrière sera à la librairie Verdun. Dimanche, 13h, il sera à la librairie Carcajou de Rosemère. Alors, pour tout savoir sur cette journée, jdli.libraire.ca. C'est tout pour le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical et aussi au service du thé. Non, aujourd'hui, c'était une petite camomille. Ça fait du bien, ça. Alors, passez une agréable fin de semaine. Paraît-il qu'il va faire très beau en fin de semaine. Profitez-en bien. On se retrouve lundi.